avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on donne la parole à un récit de vie d'agricultrice. Bonjour Camille Borin.
Bonjour.
Vous avez 28 ans ?
Oui.
Vous avez grandi à la ville, vous êtes devenue agricultrice avant 20 ans et veuve à 24 ans après le suicide de votre époux, agriculteur, éleveur en Picardie, dans le nord de la France. Vous signez un deuxième livre pour continuer ce récit de labeur dans une porcherie auprès de cochons que vous avez adoré, élevé et soigné jour et nuit malgré les difficultés financières. Étranglé par les dettes, par la charge de travail, par la peur aussi de ne pas réussir, notamment quand on est une femme dans l'agriculture, eh bien vous publiez et vous racontez une vie à part chez Robert Laffont. Et pourtant, en sortir, quitter la ferme, ça a été un déchirement. Vous allez nous le dire, vous allez aussi nous dire où vous en êtes aujourd'hui, quels sont vos projets, si vous pensez que l'agriculture française mise pour son avenir suffisamment sur les femmes ou pas du tout. Et puis en fin d'émission, un tout autre sujet, on aura une rencontre avec une militante des droits des femmes au Burkina Faso. Raissa Compaoré a fait des réseaux sociaux son arme de prédilection pour susciter la mobilisation populaire autour des problèmes de société. Raissa Compaoré est devenue une figure de la lutte citoyenne pour la paix et la justice sociale au Burkina Faso. On l'entendra donc en fin d'émission. Raphaël Constant l'a rencontré. Vous êtes bien chez 7 milliards de voisins, on est sur RFI.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Camille Borin, pendant des siècles, c'est vrai qu'on essaie paysan, agriculteur, et vous, vous êtes devenue agricultrice, éleveuse, par amour d'abord.
Je suis d'abord tombée amoureuse de mon mari, et après, oui, par amour, on peut dire que je suis tombée amoureuse aussi de ce métier, qui est un métier magnifique malgré les contraintes qui ne sont pas très joyeuses parfois.
Ça veut dire que vous n'êtes pas allée au lycée agricole, comme beaucoup de jeunes.
Non, j'ai rencontré mon mari, j'avais 15 ans. J'étais au collège en 3e, parce que j'avais redoublé mon CE2. Et du coup, j'ai été jusqu'au brevet, j'ai passé l'été à la ferme et je ne suis jamais repartie. Ouais.
Donc formée sur le tas hein, par
c'est
votre
exactement
mari.
Ça.
Pendant 10 ans, vous avez travaillé d'arrache-pied, vous le racontez bien dans votre livre, dans la ferme familiale de votre mari. Vous aviez quel statut finalement ?
Au début, j'avais aucun statut parce que lui-même n'était pas installé quand on s'est rencontrés. On s'est rencontrés en 2008, il s'est installé en 2011. En 2014, il me donne le statut de conjointe collaboratrice. Au début, je voulais refuser parce que ça a un coût financier au niveau des charges. Hein. Mmh. Mais voilà, il voulait me protéger. Il m'a dit, moi, je veux que tu sois reconnue pour le travail que tu fais sur l'exploitation. Et je me suis dit que c'était quand même une belle preuve d'amour, puisque tout agriculteur ne donne pas ce statut-là à leur épouse. Donc j'ai accepté. Donc j'ai été conjointe collaboratrice jusqu'à la fin, parce qu'il est malheureusement décédé, mais je me suis sentie agricultrice du départ. C'est quelque chose qui est en nous. Et je peux comprendre les agriculteurs qui ont du mal à arrêter, parce qu'justement, ils sont nés sur la ferme et... Et c'est encore plus compliqué quand je vois, moi, la complexité de ma situation, alors que, comme vous l'aviez dit au début, je suis née en ville. Oui. Et du coup, je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Et pour autant, je suis tombée folle amoureuse de l'homme et du métier.
Pas de vacances ?
Non, un week-end en 10 ans.
Un week-end en 10 ans. Donc ça veut dire travailler 7 jours sur 7.
Oui, mais on s'en rend pas compte. En fait, on est pris dans cet engrenage de passion. Du coup, notre priorité, c'est nos cochons.
De passion et d'action aussi. Hein.
Oui, voilà, exactement.
Ça ne s'arrête jamais.
Ça ne s'arrête pas. On inséminait toutes les 5 semaines. Il y avait les mises bas. C'était important.
Donc les accouchements.
Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des voilà les mises bas, les accouchements. Et ça demande beaucoup de travail. C'est une surveillance jour et nuit quand les truies sont en pleine mise bas.
Puisque... Parce qu'à un moment, vous avez plus de 200 cochons, hein.
Alors, on a 50 truies en tout, et après, le nombre de porcs varie selon les mises bas et les sevrages qui sont 5 semaines après, s'ils sont corrects ou pas. Mais on avait une capacité pour accueillir environ 800 à 1000 porcs par an, ce qui est déjà beaucoup. Mais après, ça restait une ferme familiale, c'était pas de l'élevage intensif, comme on peut voir, ça restait une petite ferme.
Oui, et c'est d'ailleurs tout le problème. Hein. Et ce qui va vous conduire à l'endettement. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette vie, finalement, vous, une fille de la ville? Vous racontez dans le livre que vous continuez à aimer aller chez la manucure. Oui. Vous avez les ongles impeccablement vernis, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette vie avec les cochons?
En dehors d'une vie avec les cochons, il y a une vie tout court.
Dans la nature.
Dans la nature. J'ouvrais mon volet de cuisine le matin. C'est la vue sur les pâtures, la vue sur les champs, la vue sur ce chêne dont je parle énormément dans le livre et qui me manque beaucoup aujourd'hui. Et il n'y a pas de prix pour avoir ça. Il faut se mettre aussi à la place des gens qui n'ont malheureusement pas notre vie, qui se lèvent entre quatre murs et qui vivent dans 10 mètres carrés avec des prix de loyer exorbitants. Moi, j'avais cette chance, malgré toutes les difficultés que l'on rencontrait, de vivre à la campagne. Donc il y a ça, il y a ce recul aussi d'être loin de tout, qui a des avantages et des inconvénients. Et puis, on est nos propres patrons. On fait ce que l'on veut, avec la nature, évidemment, et toutes les contraintes liées à l'élevage. Mais on est chez nous et dans nos bâtiments.
Et une certaine pression aussi, tout de même, dans la famille, dans la société. Oui. Le grand-père de votre mari, première rencontre, il vous demande, à brûle-pourpoint, comme ça, « t'as des hectares ?»
Oui.
Qu'est-ce que vous répondez ?
Non, que je n'ai rien, je n'ai pas de bien, ma famille n'a pas de bien non plus. Ma mère, encore aujourd'hui, est en location dans une petite maison. On n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Après, il y en a qui ont l'opportunité de se construire eux-mêmes et d'y arriver. Et je pense que c'est tout à leur honneur. Et il y en a, ils y arrivent moins que d'autres. Ma mère était soignante, donc c'était compliqué. Mais ça n'a jamais posé de problème à ma famille de ne pas avoir de bien. Bien au contraire, ce n'est pas ça qui fait qu'on est différent des autres. Donc je lui réponds simplement que non, je n'ai pas de bien. Mais là encore, c'est des choses à casser, ces a priori de « t'as rencontré une femme, elle n'est pas du milieu agricole, elle n'a pas de bien, donc c'est une mauvaise personne », alors que pas du tout.
Quelle idée d'épouser une fille de la ville trouvée sur Internet? C'est une phrase qui fait mal, que vous avez entendue?
Au début, elle fait mal, mais au fur et à mesure, j'ai appris à connaître son grand-père et à me lier avec lui, j'en étais très proche. Donc... À force, on oublie, c'est pas ça qui fait le plus mal dans ce qu'on a pu me dire. C'est pas cette phrase-là qui fait le plus mal.
C'est quoi ?
Que je suis une mauvaise personne et que j'étais pas spécialement la bonne personne qui était auprès de mon mari. Mais en attendant, c'est pas moi la responsable de son départ. Donc du coup, moi, tous les matins, j'arrive à me regarder dans une glace.
Vous faire respecter en tant que femme, plus tard en tant qu'agricultrice, ça va être ça le vrai défi ?
Pour moi, personnellement, oui, le vrai défi, c'est de me faire accepter où les terres sont par tous les autres agriculteurs. Je ne leur veux aucun mal. Ils ont leurs hectares, j'ai les miens. Je suis en location, je fais le travail comme il se doit d'être fait. Et après, chacun chez soi et c'est mieux pour tout le monde.
Mais finalement, on a l'impression dans le livre qu'on ne vous pardonnait pas d'avoir épousé une cause qui n'était pas la vôtre.
C'est difficile, en venant de l'extérieur, de se faire une place dans le monde agricole. Mais vraiment, je tire mon chapeau à toutes ces femmes qui ne sont pas du tout de ce monde agricole, qui sont cadres et que du jour au lendemain, elles claquent tout et elles reprennent une exploitation, peu importe le mode et l'élevage. Et du coup, je trouve que c'est extraordinaire, ces histoires-là, de ne pas être née dedans, mais de se passionner pour ce métier-là.
C'est votre force, en même temps, d'avoir choisi d'être arrivée par vocation, par passion.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a fait ma force. J'ai grandi du coup plus vite en partant de chez moi à 15 ans. J'ai pas vraiment laissé le choix à ma famille. Je leur ai dit, je reviens pas et c'est comme ça.
Ça veut dire que vous n'avez pas eu de jeunesse finalement?
Non.
Du jour au lendemain, vous vous retrouvez à plus voir les copains, les copines et à travailler 7 jours sur 7.
À travailler 7 jours sur 7, mais...
Dans un monde clos, quoi, dans la ferme.
Dans un monde clos, dans un monde d'hommes aussi.
Donc vraiment le contraire d'une vie d'adolescente aujourd'hui en France.
Totalement, mais je ne regrette rien du tout. On m'a déjà posé plusieurs fois la question, est-ce que tu re-signes si ça se représente? Et je re-signe si ça se représente. Je changerai peut-être certaines choses, mais en tout cas, je partirai à 15 ans et je me marierai à 18 ans sans aucun regret.
Vous êtes hantée par l'erreur, l'idée de ne pas être à la hauteur. Du coup, vous travaillez encore plus dur, jusqu'à l'épuisement parfois.
Faut faire sa place. Donc oui, même si les erreurs, c'est pas moi la responsable, qui a des responsables face à tout ça. Aujourd'hui, je me donne les moyens, peut-être des fois jusqu'à épuisement psychologique, pour me faire une place dans ce monde d'hommes, mais parce que j'estime que je le mérite et que j'ai tout fait depuis 2008 pour en être là où j'en suis aujourd'hui, mais sans oublier pour autant d'où je viens et grâce à qui j'en suis là.
Mais ça veut dire, pour parler familièrement, que vous aviez besoin de montrer que vous aviez des couilles, finalement ?
Oui, mais je pense que je suis justement pas appréciée pour ça, parce que, bah, comme vous dites, j'ai des couilles, j'ai une grande gueule, et ça, je m'en cache pas. Peut-être que je dis tout ce que tout le monde pense tout bas, mais à un moment, pour y arriver, il faut dire les choses, et je suis pas née dans l'hypocrisie, donc c'est pas quelque chose qui m'attire profondément. Et je dirais toujours quelque chose, je donnerai mon avis, que ça plaise ou non. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait ma force de caractère.
Alors, ce qu'on comprend dans le livre, c'est que bon, l'odeur des cochons, c'est vraiment pas ça qui vous gêne. Hein, parce que ouvrir, comme vous le disiez tout à l'heure, les volets de votre cuisine, être en pleine nature, avoir de l'espace, vivre avec les saisons aussi.
Hein, oui, c'est ça.
C'est ce que vous aimez. Mais alors, les relations sociales, quand même, dans le monde paysan, c'est sacrément dur. On a l'impression que c'est à l'opposé des paysages bucoliques.
Bah, aujourd'hui, on va rentrer dans la quatrième année d'après-décès. L'odeur des cochons me manque terriblement. Les relations sociales entre agriculteurs ne m'en manquent absolument pas. Après, heureusement, hein, c'est pas partout pareil, mais je trouve qu'il y a un fossé. On devrait s'entraider, on devrait être là les uns pour les autres. Et souvent, c'est qui va mourir le premier pour qu'on puisse avoir les hectares qu'il avait. Mais à un moment, faut penser humainement, avec son cœur, et pas penser qu'à son portefeuille. Et je pense que c'est ça qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est de plus penser humain, mais penser argent et bien. Et c'est pas ça la vie.
Ouais. Alors, ceci dit, les hectares, c'est devenu rare et c'est devenu cher en France. Le prix des terres a augmenté de plus de 50% en 20 ans. On pourrait même dire que c'est plus que l'immobilier à Paris. Alors, peu de gens le savent. Dans votre premier livre, vous avez dénoncé l'immobilisme face au suicide des agriculteurs. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé à votre époux. Il s'est pendu.
Oui.
Il ne parvenait plus à faire face aux difficultés financières. Il avait sombré dans la dépression.
On avait des difficultés financières, donc on devait de l'argent à certains de nos fournisseurs qui étaient compréhensifs, d'autres pas du tout. On devait de l'argent à sa famille, puisque les terres étaient en location. Et tout compte fait, les fournisseurs étrangers étaient bien plus compréhensifs que sa famille. Donc il y avait une pression constante, et je pense que c'est ça qui, malheureusement, a fait que j'en suis là aujourd'hui et que je suis face à vous et que j'ai écrit ces deux livres, un plus dramatique que l'autre, forcément. Mais ça reste vraiment compliqué, et du coup, la dépression, on la voit pas venir. Il y a eu des périodes plus noires que d'autres, et une fois qu'il s'en est sorti, moi je pensais que c'était terminé, mais tout compte fait, il a replongé. Donc quand j'entends « mais si la dépression, on en guérit, on s'en sort toujours », mais il reste toujours une petite faille, et tout compte fait, cette petite faille, je l'ai pas vue. Donc moi je pensais que tout allait aller mieux, hein. 5 minutes avant, je rigolais avec lui, et 5 minutes après, il n'était plus là. Donc il y a cette compréhension à avoir de pourquoi on en vient là, et surtout à cet âge-là, 31 ans, c'est très jeune pour vouloir finir sa vie.
Vous disiez, vous avez trouvé moins de soutien finalement dans la famille qu'auprès de certains fournisseurs qui eux-mêmes attendaient des remboursements. Mais les grands-parents de votre mari, ils avaient été exploitants agricoles après-guerre, tout allait bien, tout était plus facile. Est-ce que c'est facile à comprendre pour ces différentes générations de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec l'agriculture en France aujourd'hui ?
Bah, je pense qu'il y en a, ils doivent le comprendre, mais non, comme vous dites, il y en a, ils le comprennent pas, de pourquoi eux, ils ont réussi à leur temps à eux, et pourquoi nous, aujourd'hui, on n'y arrive pas, alors que justement, on devrait y arriver. Mais les prix des céréales ont flambé, et à côté de ça, le prix des porcs, nous, quand nous, on était installés, ils étaient au même prix que le grand-père quand lui en faisait. Donc, à un moment.
C'est-à-dire autour de 1 euro le kilo, non ?
Ça a baissé à plus d'un euro de kilo, oui. Il y a eu début 2016, ça a été très très compliqué. 2016-2017. On a vendu bien, mais on a vendu très très bas aussi. Et c'est ça, en fait, que cette génération doit comprendre, c'est que tout est en constante évolution au niveau des prix, de l'alimentation, mais le prix derrière de notre vente ne suit pas. Donc nous, on ne vendait pas nos céréales, on était en autoconsommation, on se servait de nos céréales pour nourrir nos bêtes. Si le cochon n'allait pas, On n'avait rien d'autre. On pouvait rien vendre d'autre que le cochon. Donc, il fallait qu'ils comprennent ça. Et des fois, pour ces générations-là, c'est difficile à comprendre.
Malgré les 50 hectares de terre ?
Bah, malgré les 50 hectares, des fois, on n'en avait même pas assez pour nourrir nos bêtes. Donc, on était obligé d'acheter de la céréale. Et c'est pas le même prix. Et du coup, eux, quand ils vendaient leurs cochons, et certes, peut-être qu'ils étaient au même prix que nous dans nos années, mais leur matière première leur coûtait pas aussi cher.
Les agriculteurs se suicident plus que le reste de la population. On a plus de 300 agriculteurs exploitants qui se suicident chaque année. Et même si on compte les salariés agricoles, c'est près de 600 personnes chaque année, près de 600 suicides. C'est beaucoup. Ça a fait l'objet d'un rapport au gouvernement avec des propositions. Est-ce que vous avez l'impression, Camille Borin, que maintenant, il y a davantage de prise de conscience qu'en 2017 ? C'était en 2017 quand
Oui, mon mari s'est suicidé le 27 octobre 2017. On en parle peut-être plus. 2019 a été une année où il y a eu mon livre qui est sorti et dans le même temps, il y a eu le film « Au nom de la terre » d'Édouard Bergeon. Je pense qu'il a réveillé aussi les consciences.
Qui a fait près de 2,5 millions d'entrées. C'était le troisième film le plus vu en France cette année-là. Donc ça a quand même beaucoup secoué la population.
Alors il y en a, je pense qu'ils n'ont pas du tout compris ce qui s'est dit dans ces images. Il y a des gens comme moi, ça a fait un effet miroir. Plusieurs de mes proches l'ont vu et voilà, ils me l'ont dit, c'est un effet miroir et moi, il y a des scènes qui sont dans le film que j'ai vécues moi-même, mais je pense que ça a fait réveiller les gens de la ville qui pensaient peut-être pas qu'on vivait dans ces conditions-là. Donc c'est très beau, mais comme vous dites, avec les salariés, c'est plus de 600 à 700 suicides par an et c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Après, le gouvernement, j'espère qu'il entendra certains messages dus au rapport qui a été déposé par un député. Il va avoir des rapports déposés aussi par les sénateurs, par Henri Cabanel, où j'ai participé à la commission où j'ai été interrogée à ce sujet en tant que veuve d'exploitant. Et je trouve qu'il y a encore énormément de travail pour que tout ça s'arrête, parce que c'est vraiment dramatique.
Vous faites partie d'une association qui écoute les agriculteurs en détresse. Ça vous a aidé, vous ?
Alors nous, on les a connus en 2012, cette association. Je peux pas dire que ça nous a pas aidé. Ils ont été là. La personne qui nous a accompagnés, ça s'appelle Valérie. Elle a été là le plus possible. Deux semaines avant le décès de mon mari, elle était encore chez nous. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'il assistait au rendez-vous du début à la fin, chose que c'était très très rare qu'il restait en notre présence. C'était beaucoup moi.
Parce qu'il n'avait pas le temps, parce que.
Or, des fois, il n'avait pas le temps et des fois, il n'avait tout simplement pas envie. La dépression, ça détruit tout. Donc, même les rapports sociaux qu'on peut avoir, du coup, sont détruits. Et aujourd'hui, moi, quand ça m'est arrivé, jamais j'aurais pensé m'engager dans cette association. Mais voilà, je suis veuve. On ne peut plus faire grand-chose pour moi concernant ce sujet-là, mais alors pourquoi je resterai dans mon coin à ne pas vouloir aider les autres ? Moi, mon but, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs arrêtent de suicider et qu'on mette tout en place, du moins qu'on essaye de mettre de plus de choses possibles en place pour pouvoir les aider. Et m'engager dans ces associations, c'était vraiment important pour moi. Déjà, je garde un pied chez d'autres agriculteurs sans divulguer ce qui se passe quand je vais à leur rencontre, mais pour autant, j'essaye de leur faire comprendre qu'il y a des solutions et je pense que c'est important ça aussi.
Et puis vous n'avez pas raccroché avec l'agriculture. On va en parler, on va mieux découvrir en quoi consistait votre métier d'éleveuse au quotidien, pourquoi aujourd'hui vous avez cessé l'élevage, trop compliqué, comment se retrouver étranglé aussi par les dettes et puis à quoi vous aspirez toujours dans ce monde de l'agriculture. Vous restez avec nous Camille Borin, 7 milliards de voisins, on est bien sur RFI.
D'automne, pas froid, ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta belle? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il
faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone comme ça. Je peux jurer avoir entendu le glas. J'aurais dû te libérer avant que tu me libères, moi. J'ai fait le bilan carbone trois fois. Puis parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Pas concentré à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins. On donne la parole à Camille Beaurain, aujourd'hui agricultrice. Vous publiez Une vie à part. Vous avez raconté dans votre deuxième livre ces 10 années passées en tant qu'agricultrice, éleveuse, aux côtés de votre époux qui s'est suicidé à l'âge de 32 ans. Vous êtes donc retrouvée veuve à 24 ans. Vous racontez bien, bien sûr, la dépression de votre époux, mais surtout la spirale qui conduit vraiment à l'étranglement de votre situation financière. Alors, il y a bien sûr les banques, hein, parce que on vous refuse de renégocier des remboursements trop élevés. On ne se rend pas très bien compte, quand on est à l'extérieur de cette vie à part que vous décrivez, que les agriculteurs ont énormément de charges, de frais dont ils doivent s'acquitter.
Oui, des gens comme vous ne s'en rendent pas compte, mais je crois que même les banquiers ne s'en rendent pas compte.
Ben oui, mais c'est quand même grave, parce qu'il y a quand même des banques qui sont au plus près des agriculteurs, qui sont sur les terrains agricoles quand même.
Ils sont censés,
oui.
Voilà. Donc, je pars du principe où ils sont censés. Je pense qu'un vétérinaire ou un technicien de coopérative est bien plus présent que ces gens-là. Certes, hein, y a des chiffres. Je peux comprendre qu'il ne faut pas être à découvert je ne sais combien de fois par an, et ce qui n'était absolument pas notre cas, parce que je n'ai jamais été à découvert sur le compte de l'exploitation. Les prêts ont toujours été payés, et pour autant, on nous refuse de l'aide. Donc c'est ça aussi qui est incompréhensible face à des situations comme ça, c'est qu'on permet pas aux gens de pouvoir continuer leur activité en leur donnant un petit coup de pouce. C'est ce que l'association Solidarité Paysan voulait pour nous, une restructuration des prêts en incluant les dettes qu'on avait, ce qui nous aurait sûrement sauvés. Et je trouve incroyable que j'ai dû faire appel à la politique et aux députés de ma circonscription pour pouvoir avoir de l'aide, qui malheureusement s'est avérée trop tard, puisque le versement a été fait le lendemain du décès de mon mari.
Oui. Ça veut dire qu'il y a en permanence des factures à régler de fournisseurs?
Oui. Et encore, nous, c'était une petite exploitation, donc c'est pas non plus des montants énormes par rapport à d'autres collègues qui ont des exploitations bien plus importantes. Et pour autant, on n'y arrivait pas. Mais on n'y arrivait pas parce qu'on a repris un élevage qui était pas bien.
Qu'est-ce que vous appelez pas bien?
On a repris un élevage où les truies ne remplissaient pas. Donc la première année où on s'installe, où on sort que 265 porcs. Et c'est une reprise familiale qui a été très, très, très compliquée. Et du coup, il n'y a pas eu d'aide. On a payé tout ce qu'il y avait, l'élevage, le matériel, tout ça, on a dû payer une somme assez conséquente. Et du coup, derrière, on ne peut pas rembourser des prêts et remettre l'élevage à zéro dès la première année. C'est une chose juste impossible. Du coup, ça se fait au fil du temps. Et on était en train de s'en sortir, puisque en 4 ans et demi, on part de 265 porcs la première année à 400, 500 la troisième année, et on arrive à un résultat de pratiquement 1000 porcs sur l'année 2017 si mon mari n'était pas parti. Donc, je pense qu'il y a certes les chiffres, il y a certes la trésorerie qui
compte. Ça, c'est ce que regarde le banquier.
Ouais. Les bilans. Compta, c'est ce que regarde le banquier, mais il faut aussi regarder à côté. À côté, les efforts qui ont été faits Je parle pas que de moi, je parle de moi parce qu'aujourd'hui on est
oui, vous êtes nombreux, les deux. Vous êtes nombreux dans ce cas-là. Le problème, c'est que vous vous payez tous les deux combien par mois ?
En salaire ?
Oui.
300 euros pour deux par mois.
300 euros pour deux par mois sont des chiffres qui parlent à nos auditeurs qui sont en Afrique subsaharienne. C'est des montants de salaire très moyens en Afrique subsaharienne, ce que vous nous citez là.
Bah, c'est pas un salaire en fait.
Ouais, c'est pas un salaire, on est d'accord.
Voilà,
comment on vit avec ça, même si on a un potager, qu'on fait des légumes, on les a pas toute l'année d'abord, vous êtes dans un climat froid. Comment on vit avec 300 euros pour deux ?
Il y a des mois on vit, il y a des mois on survit, et puis on se rend compte que c'est plus possible. Donc moi, je fais le choix de partir de l'exploitation, d'aller faire un mi-temps de 25 heures semaine à l'extérieur, qui nous apporte du coup de l'argent, qui des fois nous permet de ne pas prendre ces 300 euros sur le compte de l'exploitation et de les donner à un fournisseur pour essayer de, voilà, de lui dire, bah, tu vois, on te donne 300 euros ce mois-ci, peut-être que tu ne les auras pas le mois prochain, mais on fait l'effort de te donner quelque chose. Donc la vie, elle est quasi impossible de toute façon. Avec 300 euros, mais après, on a la chance, comme vous dites, d'avoir un jardin, de consommer notre propre viande, ce qui aide beaucoup. C'est pas le cas de tout le monde, mais il faut voir qu'il y a toujours pire ailleurs. Et nous, on se disait qu'on allait s'en sortir. Donc, l'effet déjà d'avoir un travail à l'extérieur qui me ramenait un salaire quand même conséquent selon les mois, on se disait, il y a une suite qui va être belle, mais malheureusement, c'était pas assez suffisant.
La suite, ça a été en fait une goutte d'eau, hein, ça a été une maladie qui a contaminé, via une invasion de rats dans la porcherie, qui a contaminé donc les truies, qui donc n'ont pas pu faire des bébés, pour parler simplement.
Bah, c'est ça, la leptospirose qui a contaminé notre élevage pendant une période assez courte, mais qui a fait beaucoup de dégâts. Donc les truies ne remplissaient plus. Il y avait la mise en chaleur, il y avait l'ovulation, mais malheureusement, à l'insémination, ça ne prenait pas. Donc il a fallu comprendre pourquoi ça ne prenait pas, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, quel coût ça avait aussi, surtout de mettre ça en place. Donc on est passé par un organisme qui nous a conseillé un dératiseur qui est venu mettre tout ça en place. En 3 mois, tout était réglé, mais après, il fallait remonter tout ça, faire partir les truies qui, malgré leur jeune âge, n'allaient jamais produire de porcelet et réinvestir dans de nouvelles truies. Sauf qu'aujourd'hui, une truie à l'abattoir, c'est au grand maximum 170 euros la truie. Et pour acheter des cochettes nouvelles, c'est 2006-2007, les 6 cochettes. Donc, financièrement, c'est des choses qui sont pas possibles. Donc nous, à un moment, on a fait le choix d'avoir moins de bêtes, donc d'avoir entre 40 et 45 truies au lieu de 50, mais au moins d'essayer de s'en sortir comme ça. Et ça commençait à payer vraiment.
Tous ces chiffres, ils sont vraiment restés gravés hein, dans votre mémoire, Camille Borin. Vous avez des comptes, vous en avez fait des soirées entières.
Il y a des choses qu'on peut pas oublier. Il y a des chiffres qu'on peut pas oublier. Il y a des choses qui nous marquent. Donc il y a des choses que j'ai oubliées, forcément, ou que je me rappelle... Au fur et à mesure, il y a des choses que j'ai dit dans le premier livre que je n'ai pas dit dans le deuxième, et des choses que je n'ai pas dit dans le premier et que j'ai dit dans le deuxième, puisqu'il y a des choses qui me sont revenues au fur et à mesure, mais ça c'est normal, c'est dans l'inconscient, mais il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Et ces chiffres-là qui ont fait que je suis veuve aujourd'hui, je ne pourrai jamais les oublier.
Ouais. Ces chiffres-là, c'est quand même tout un système qui marche sur la tête. Beaucoup d'intermédiaires hein, sur les chaînes de l'élevage et de la viande. Vous vendez autour de 1 euro, enfin grosso modo, hein, oui. Les cours. Une viande qui va se retrouver en supermarché à quoi, 7, 8 euros
selon
le kilo.
Selon les morceaux.
Mais vendez pratiquement à perte en fait.
Alors, on vend en perte. Après, les supermarchés, ils mettent leur marge. Mais il faut comprendre que entre nous, les éleveurs et les supermarchés, il y a plein de monde.
Ouais.
Et il faut comprendre combien gagnent ces personnes qui se retrouvent entre nous et le supermarché.
Les grossistes.
Les grossistes. Il y a trop d'intermédiaires. Il y a trop d'intermédiaires. Alors, c'est pour ça que il y a beaucoup d'éleveurs aujourd'hui, s'ils le peuvent, ils mettent en place le circuit court. Et c'est quelque chose qui est très intéressant. Autant pour eux que pour nous, consommateurs.
On vous l'a proposé d'ailleurs. Enfin, en tout cas, vous avez évoqué cette question du circuit court.
Oui.
Mais votre mari s'est suicidé en 2017. C'était déjà il y a plus de 3 ans, ça a beaucoup progressé depuis, la conversion au bio, faire en sorte que vous puissiez vendre votre matière première à un meilleur prix, avec moins d'intermédiaires. Mais ça aussi, c'était très compliqué pour vous de l'imaginer, de le réaliser.
On y a pensé, on en a beaucoup parlé avec l'association Solidarité Paysan, on a commencé à faire les démarches, mais c'était un coût de 100 à 150 000 euros, puisque c'est pas le truc de faire tuer des cochons et de les ramener à domicile. Il faut un laboratoire, il faut un atelier de déco, il faut s'y connaître. Donc peut-être qu'ils font prendre quelqu'un à domicile justement pour ça.
Ça veut dire qu'on se convertit pas au bio, par exemple, quand on est étranglé. C'est pour ceux qui vont bien, ça, la conversion.
La conversion au bio, il y en a, ils y arrivent très bien et tant mieux. Après, au niveau nous, de notre élevage, c'était quelque chose de quasi impossible à mettre en place. Il faut que les truies soient en liberté, donc il faut une surface énorme, puisque c'est tant de mètres carrés par truie. Donc je pense que si on veut conserver la totalité de nos truies, voilà, c'est encore un investissement autre. Mais là encore, que ça soit bio ou non bio, on doit être reconnu du travail qu'on fait. Et ça passe par un salaire...
Votre élevage avait de très bonnes notes, hein, d'ailleurs, en ce qui concerne la qualité.
La qualité, oui, on était très très bien notés. Et c'était une satisfaction, mais encore une fois, malgré qu'on soit très très bien notés et qu'on ait cette satisfaction de très bien travailler, du coup, le prix n'est pas là. Ouais. Donc au fond, on est dégoûté. Enfin, il faut se mettre à leur place, de se dire, nous, on se lève tous les matins, on se couche tous les soirs, mais on gagne pas notre vie.
Quand vous vous dites que vous vous couchez, c'est après avoir fait un dernier tour à la porcherie à 22h30, hein.
Oui, surtout quand il y a les mises bas, il faut absolument qu'on aille faire un tour à la porcherie pour s'assurer que tout va bien.
Mais... Et alors, quand on parle d'agri-bashing, quand le monde urbain critique les agriculteurs avec leurs pesticides, les gros tracteurs, vous, comment vous vivez ça ?
Nous, on n'a pas été spécialement, personnellement impactés par ces dires-là, mais on écoute les informations, on lit les articles qui passent et qui nous font aussi du mal, même si c'est pas nous qui sommes impactés personnellement. Mais il faut arrêter ça, parce que faut pas croire que ça nous fait rien. Ça nous fait vraiment du mal. Quand on épand du lisier dans nos champs, on n'épand pas... On le fait pas avec plaisir, on le fait parce qu'il faut vider nos fosses.
Lisier, on va peut-être rappeler ce que c'est.
C'est le caca des truies et des cochons, donc on pompait régulièrement et on épand ça dans nos champs. Donc on donne aussi un apport à cette terre et qui fait qu'on va utiliser aussi par la suite moins de produits phytosanitaires, puisqu'on a déjà apporté quelque chose à travers le lisier.
Mais les gens se plaignent des mauvaises odeurs dans ces cas-là.
Les gens se plaignent des mauvaises odeurs, mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on épand de l'odeur, ou soit on épand des produits phytosanitaires et on vous empoisonne. Mais il faut arrêter de nous casser du sucre sur le dos. Ils sont bien contents de manger et du coup, ils mangent pas... On n'appuie pas sur des boutons. Hein. Un cochon, c'est 6 mois d'engraissement. Pareil pour ceux qui vont traire leurs vaches. À un moment, ils bossent, les gens. Donc, on n'est pas là à engraisser au quotidien. Et il faut des résultats. Donc, si vous voulez manger des choses qui viennent de France et pas qui sont importées à longueur de temps de l'étranger, il faut aussi nous laisser faire notre travail. Donc oui, il y en a qui traitent plus raisonnablement que d'autres. Mais c'est pas pour autant qu'on est des personnes méchantes.
Oui, alors de toute façon, avec les traités de libre-échange, c'est vrai aussi que ça n'améliore pas votre quotidien. Il y a le fameux traité, le CETA, hein, qui vous a fait du mal. Dans les 10 ans à venir, en France, un agriculteur sur deux va quitter le métier. Comment vous voyez la situation de l'agriculture, l'avenir de l'agriculture? On dit qu'on a 30% des chefs d'exploitation qui sont des femmes. Dans les lycées agricoles, il y a entre 30 et 40% de filles selon les filières. Est-ce que vous pensez que les lignes sont en train de bouger, qu'une agriculture plus vertueuse pourrait servir finalement tout le monde?
Déjà, on parle de plus en plus des femmes. Ce qui est quand même important, ça veut dire qu'on a notre place dans ce métier. Il faut qu'on ait notre place. On apporte un regard différent de ceux des hommes. Et du coup, je trouve que c'est très bien. Après, je pense que c'est aussi l'amour du métier. Hein. Les filles qui sont nées dans une famille d'agriculteurs a peut-être plus cette envie que quelqu'un qui vient de l'extérieur. Il faut leur laisser cette chance. Aujourd'hui, l'agriculture est en évolution constante, mais il faut donner les moyens à ces agriculteurs d'évoluer, de mettre en place certaines choses qui pourraient sauver leur exploitation.
Encore une fois, on parle de ces exploitations de petite taille, familiales, qui auront beaucoup de mal à survivre dans les années à venir, mais à l'ombre de des très grandes exploitations.
Mais exactement, ils auront beaucoup
si
de mal.
Si elles ne changent pas de modèle.
Et le problème aujourd'hui, c'est que ces exploitations, elles vont disparaître, il n'y aura pas de repreneurs. Donc il faut aussi faire comprendre aux gens que si nous, on veut des repreneurs et une suite dans ces fermes familiales, comme vous dites, c'est parce que on a envie de manger français. Ouais. Et moins il y aura d'agriculteurs en France, et plus on mangera de l'étranger. Et ce n'est pas possible.
Alors, Camille Borin, maintenant, quel est votre plan de vol? Où en êtes-vous exactement? Bon, les cochons, c'est fini. L'élevage a été vendu.
Oui. En intégralité, 3 mois et demi après le décès de mon mari, parce que c'était des choses qui étaient inconcevables pour moi de continuer sans lui. C'est compliqué quand il manque la moitié de soi. J'ai fait un travail sur moi, j'ai été suivie et je me suis entourée des bonnes personnes aussi, qui a fait qu'aujourd'hui, au plus tard, le 15 mai de cette année, je serai officiellement agricultrice. Donc j'ai une autorisation d'exploiter les terres. Tout est en train de se mettre en place. À côté de ça, je suis nourrice dans une famille avec qui ça se passe très bien. J'ai trouvé un équilibre et je pense qu'il doit être fier de moi.
Vous allez exploiter quoi comme terre?
Donc j'exploite les terres qu'il exploitait lui-même. Donc il n'est plus locataire vu qu'il n'est plus là, ça va être moi qui va prendre sa place avec une fierté particulière.
Donc vous allez être locataire des terres familiales, c'est ça? Les 50 hectares?
Les 50 hectares à la totalité.
Qu'est-ce
où
que vous
aujourd'hui il y a du blé, de l'escourgeon et du colza, pourquoi pas partir sur autre chose par la suite. Aujourd'hui c'est ce que je veux faire, on se revoit dans 10 ans et on verra si on en est au même point.
On vous fait confiance, hein, je pense, Camille Borin.
Merci beaucoup.
Vous avez en tout cas de la résilience. Est-ce qu'on peut guérir de ces blessures-là? En tout cas, est-ce que ces blessures vous ont appris quelque chose pour la suite?
Je savais que j'étais forte, mais pas à ce point. Donc j'ai jamais baissé les bras, je n'ai jamais pris un seul jour d'arrêt maladie depuis le décès de mon mari. Il a été enterré un vendredi, le lundi même je retravaillais. Je pense que c'est ça qui a fait ma force. Donc il y a des hauts, il y a des bas. De belles personnes me soutiennent et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à être devant vous et malgré le masque à avoir un sourire quand même.
Le troisième livre, ça sera votre réussite dans le monde agricole?
Ma réussite et surtout tout ce qu'on m'a fait subir depuis qu'il est parti. Puisque faut pas que ça reste en silence, il y a toujours une suite qui est joyeuse et une suite qui est moins joyeuse, et il faut la dire.
Merci à vous, en tout cas, Camille Borin. Vous signez, avec l'aide d'Antonio Rodriguez, Agricultrice, une vie à part. C'est publié chez Robert Laffont.
Merci
à vous.
Beaucoup.
On vous laisse retourner dans les Hauts-de-France. Merci d'avoir fait le trajet, d'être venu dans le studio des 7 milliards de voisins. Très bonne journée à vous.
À vous aussi, merci.
On va rester dans un monde de femmes, des femmes qui ne lâchent rien. Dans quelques instants, portrait d'une activiste chanteuse aux multiples engagements. Elle est au Burkina Faso, à Ouagadougou, ce sera juste après. Allez, le regard optimiste de M, croit au printemps.
Te souviens-tu du temps de nos confinements? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Crois en l'amour comme on croit au printemps. Crois en la vie comme on croit aux enfants. Crois en chacun comme on croit au présent. Crois en ton cœur comme on croit aux absents. Thank you. les jours de nos confinements. J'avais les larmes aux yeux, ne sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements.
Activiste, journaliste, communicante et chanteuse, Raissa Compaoré est devenue une figure de la lutte citoyenne pour la paix et la justice sociale au Burkina Faso. Elle a 39 ans, cette militante optimiste et touche-à-tout a fait des réseaux sociaux son arme de prédilection pour susciter justement la mobilisation populaire autour de problèmes de société comme l'accès à l'éducation des filles, les droits des femmes, la lutte contre le terrorisme dans son pays. Raphaël Constant l'a rencontrée chez elle à Ouagadougou.
Je suis Raissa Compaoré. Je suis une femme burkinabé qui œuvre dans le social. On me qualifie d'activiste, mais surtout, j'œuvre pour les personnes les plus démunies, mais aussi en faveur de la paix.
Vous êtes journaliste, vous êtes aussi chanteuse, vous êtes aussi un peu dans la communication. Et vous avez par ailleurs un très gros compte sur les réseaux sociaux, un compte Facebook qui a plus de 30 000 abonnés, ce qui est vraiment important. Quelle lutte vous mettez en avant justement sur les réseaux sociaux ?
Actuellement, je mets plus en avant mon activisme pour la cause féminine et surtout infantile. Par exemple, cette semaine, je vais faire une collecte pour payer des vélos pour les petites filles qui sont dans les villages. Avec le terrorisme et tout, les écoles sont éloignées. Un enfant, une petite fille, un petit garçon qui a 10 km d'une école, avec un vélo, c'est beaucoup plus facile qu'à pied. Il faut les encourager. Et tout cela, c'est dans le sens d'apporter quelque chose à l'édification d'une nation prospère. Si aujourd'hui, je travaille à ce qu'on puisse envoyer les enfants à l'école, c'est surtout pour que nous puissions lutter contre l'obscurantisme. Vous voyez le radicalisme religieux, l'intolérance qui s'installe, souvent c'est parce qu'il n'y a pas d'éducation. Et la démocratie, on ne peut l'avoir que quand on a un peuple totalement éduqué. Si les personnes non identifiées dans nos pays ferment les écoles, c'est parce qu'effectivement, ils ne trouvent pas leur avantage à ça. On est dans un système où aujourd'hui, on ne pense pas au projet communautaire. Au Burkina Faso, nous avons plus de 60 ethnies, des gens qui se disent qu'ils sont différents. Mais en réalité, quand vous arrivez dans les villages, mais les gens vivent ensemble. Ils ont une manière de vivre qui est tellement particulière avec les religions, avec les races. On a une facilité d'intégration incroyable dans ce pays. Ce n'est que les dernières années que nous avons vu certaines personnes qui sont arrivées avec d'autres idéaux, qui ont apporté autre chose et qui ont carrément fait de telle sorte que dans certaines zones, on a peur l'un de l'autre. Au Burkina, ce n'était pas comme ça. On s'était dit toujours, soyons tolérants. Au Burkina, ici, on a l'adage qui dit, quand un étranger vient chez toi, tu te lèves et tu lui donnes ta natte. On a fait confiance à tous les étrangers. On leur a donné notre natte. Mais ensuite, on s'est rendu compte que ça s'est tellement gangréné, on ne s'en sortait pas.
Une des premières actions publiques que vous avez menées, justement, c'était en faveur de la paix, juste après le premier attentat qui a frappé Ouagadougou.
Cette action, je l'ai menée parce que simplement, il y avait d'abord l'attentat contre le restaurant Cappuccino. il y a eu beaucoup de morts. Ça a choqué tout le Burkina Faso. Nous ne connaissions pas les attentats au Burkina. Mais moi, j'attendais qu'il y ait des réactions. On attendait que les réactions de l'État, de la gendarmerie, qui coordonnait les actions et tout. Au niveau social, c'était le silence. J'étais tellement révoltée, j'ai dit, mais non, il faut qu'on y aille. Et c'est dans ce sens-là que j'ai initié ce qu'on appelait la chaîne de la lumière. Ça a été une chaîne de solidarité qui a réuni beaucoup de personnes. Il y a eu même des parents des victimes qui sont venus.
Une marche, en fait.
Et ça a été une marche blanche sur les lieux même de l'attentat, où nous avons dénoncé l'obscurantisme, où nous avons dit non à ces attentats-là. Et nous avons tenu mendicus pour dire aux gens, choisissez la paix, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit même sur les lieux des attentats où nous sommes allés. C'est toujours essayer de rencontrer des gens pour leur dire, n'arrêtez pas de vivre. C'est important de ne pas arrêter de vivre. Mais je vous jure qu'il y a des zones dans ce pays où c'est difficile d'aller. Il y a des gens qui se terrent aujourd'hui. Je me sens incapable de pouvoir y aller. Je n'ai pas cette force. Je ne suis pas protégée. Et en plus de ça, le message que nous passons, nous espérons par exemple que par les réseaux sociaux, les gens puissent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et que tout au fond du Burkina Faso, il y a des gens qui pensent à eux, qui leur disent « ne lâchez pas ».
Ce qu'il faut préciser, Raïssa, c'est que vous menez toutes ces actions à titre individuel. Vous ne faites pas partie d'une association. Donc justement, dans un contexte sécuritaire tendu, comment vous les menez, ces actions?
Moi, je fais mes actions sur le pif. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Je me sens interpellée, je le fais. Maintenant, je n'ai pas encore l'ambition de faire de la politique. Dès qu'il y a un peu de récupération, je me casse. Je m'excuse des thèmes. Mais c'est pour dire que je préfère que des associations bien organisées et tout prennent le relais. Moi, c'est l'impulsion que je fais. Mon objectif, c'est surtout qu'il y ait un mouvement. Je pense que si nous devons évoluer, il y a des risques à prendre. Celles qui nous ont permis aujourd'hui de voter dans le monde jusqu'au Burkina Faso, c'est des risques qu'elles ont pris.
Raïssa, aujourd'hui, quels sont vos espoirs en termes de paix pour votre pays?
Je rêve d'un Burkina Faso où je peux quitter l'Est pour aller à l'Ouest, quitter le Nord pour aller au Sud en paix. Avant, on disait le Burkina Faso n'est pas riche, mais nous avons la paix. Aujourd'hui, on dit le Burkina Faso a l'or, le coton, mais on n'a pas la paix. Il faut que nous puissions nous lever tous pour que ce pays-là puisse aller plus loin. Parce que sans paix, on ne peut rien faire. On ne peut rien du tout faire.
Lundi, 7 milliards de voisins, nous serons le 8 mars, Journée internationale des femmes. Et justement, nous allons nous interroger sur la scolarisation des filles sur le continent africain. Une partie d'entre elles ne sont pas retournées à l'école. Certaines sont tombées enceintes pendant les confinements ou ont été mariées. Alors, est-ce que la pandémie peut annuler des années de progrès pour l'accès des filles à l'école de base? Que constatez-vous dans votre ville? On attend vos témoignages dès maintenant sur Facebook ou bien vous nous appelez sur WhatsApp au 33 7 64 45 51. 41. Et merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement. Et vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Le compte, c'est 7 milliards RFI. Dans quelques instants, le journal.
7 milliards de voisins, c'est fini.
À l'heure sur RFI.